Alors, mesdames, messieurs, chers amis, nous nous retrouvons ce soir pour la dernière séance de ce séminaire organisé par Léon Askenazy. Ce sera une séance de conclusion et c'est bien évidemment Léon Askenazy lui-même qui la tirera. Nous attendions la participation ce soir, ce qui vous a été annoncé jusqu'hier en tout cas, du professeur Henri Méchonic. Malheureusement, pour des raisons de santé évidemment imprévues, évidemment indépendantes de sa volonté, pour lesquelles il nous prie de l'excuser auprès de vous, il ne pourra pas être des nôtres ce soir. Seront présents, donc, en plus de Léon Askenazy, Franklin Roski, professeur à Strasbourg, directeur de notre QEJ, et votre serviteur. Et nous allons essayer de développer un dialogue qui nous permettra, en partie au moins, en partie seulement, de reprendre certaines des idées d'Henri Méchonic qui nous sont bien connues, en souhaitant qu'une prochaine fois, donc, il nous rejoigne. La question posée, le sujet de ce séminaire était « Langage et universalité, Babel ou la confusion des langues ». Cette dernière séance donc de conclusion nous permet peut-être de préciser, de spécifier, en même temps je pense, comme nous le verrons, d'élargir le sujet en le reliant à celui de la traduction. Comment mieux évaluer le rapport d'une langue à une autre, de l'hébreu aux autres langues, qu'en nous posant la question de la traduction de l'une aux autres. Il existe à ce propos une idée reçue et généralement partagée, avec laquelle le conférencier entendait probablement se mesurer, et selon laquelle l'hébreu serait par excellence la langue à traduire. L'idée selon laquelle le livre, le Tanakh, la Bible, serait par excellence le livre à traduire. Les études de traduction dans le domaine universitaire qui est le mien se sont développées il y a une quarantaine d'années avec NIDA, en particulier à partir des traductions de la Bible. Et la plupart des théoriciens de la traduction, dont Méchonic, et ça ne peut pas être un hasard, se réfèrent aux traductions à ces traductions. Pour une idée, pour une raison fort évidente, c'est qu'au cours des siècles, la Bible et l'hébreu ont été le livre et la langue la plus traduite dans l'univers, toutes les langues possibles et imaginables. Il faudrait peut-être, et nous le ferons, se poser la question de la validité de ces diverses traductions d'une langue à l'autre. Une réflexion que je reprendrai cette fois-ci à Léon Askenazy. On ne devrait peut-être pas mettre sur le même plan les traductions de la Bible en anglais et en français, par exemple. La traduction en anglais passerait mieux que la traduction en français. Question piquante, n'est-ce pas, pour le public francophone qui est ici et sur laquelle nous reviendrons. La traduction, la première traduction, au sens propre du terme, c'est évidemment, n'est-ce pas, la Septante, la traduction en grec. Et à partir du grec, donc, les autres langues. Face à cette idée, on pourrait en préciser une autre qui va exactement à l'inverse. Et ce sera peut-être paradoxal au départ, mais un certain nombre d'entre vous, nous rejoindront tout de suite. Les livres de la Bible, les livres de la Bible et l'hébreu sont le livre et la langue la moins facile, la plus difficile, les plus difficiles à traduire, et qu'il est peut-être tout simplement impossible de traduire. Parmi les raisons que nous pourrions évoquer, qui sont concrètes, immédiates, il est bien entendu que cette langue, que le livre, repose sur un système de nomination lié à la révélation, lié à la création, où le nom et la création de l'univers vont de pair, qui fait que la traduction, je mets le terme entre guillemets, du nom hébreu en une autre langue, est impossible, est une absurdité. Il s'agit là d'ailleurs d'un principe assez général, Songez que le titre de n'importe quel roman, lorsqu'il porte un nom personnel, je pense à Madame Bovary, est intraduisible dans une autre langue. En hébreu, cela donne Madame Bovary. Mais Madame ne peut pas être traduit en Guiverette. Ça serait idiot, n'est-ce pas ? Une familiarité, si vous voulez, que le titre en français n'indique pas. Mais bien sûr, Bovary, avec toutes ses connotations, est lui-même intraduisible. Nous nous sommes posés certains colloques, question de Jabès, d'Edmond Jabès ce mois-ci, problème de savoir comment pourraient être traduits en hébreu les noms hébreux du livre des questions. Une question absolument absurde, n'est-ce pas ? Mais le traducteur hébraïque n'a pu s'en tirer qu'en modifiant l'impression, l'écriture du texte, n'est-ce pas ? Pour remettre en relief les noms, pour indiquer qu'il y avait un fossé, en tout cas une différence, entre les noms hébreux d'une part et le texte français de l'autre. De fait, les premières traductions que nous connaissons en hébreu, les Targumim, j'ai commis une erreur, il ne faut pas traduire Targum en araméen, il ne faut pas traduire Targum, ce que ferait n'importe quel Israélien aujourd'hui, n'est-ce pas ? Mais il ne faut pas traduire Targum par traduction, parce que le Targum n'est pas une traduction au sens où nous l'entendons. Nous avons, comme vous le savez, deux types de Targumim. D'une part, le mot à mot, et d'autre part, le commentaire. C'est-à-dire une phase qui précède ou qui suit la traduction proprement dite. Mais ce n'est pas le cas des Targumim en araméen, évidemment, comme il vient d'être précisé. Je ferai une remarque encore plus concrète, plus immédiate, qui mènera évidemment à toute une discussion, c'est que le concept même de traduction, et le mot de traduction, n'existe pas en hébreu, est impossible en hébreu, n'existe pas en hébreu. Le mot Targum, que vous connaissez évidemment, les deux voix, est un mot araméen. Mot de quatre racines, n'est-ce pas ? Il n'est pas un mot hébreu. De quatre lettres, pardon. D'une racine. Pas de racine, d'un radical de quatre lettres, bien sûr. Est un mot araméen. Évidemment, là encore, une simple question de logique. De l'hébreu à l'hébreu, il ne peut pas y avoir de traduction quand on reste dans la langue, dans le livre. C'est à partir du moment où on essaye de passer à une autre langue comme l'araméen que le problème de la traduction, conception même de la traduction peut s'esquisser. Et en fait, dans la Bible, nous n'avons, je pense, qu'un équivalent, le mot Melitz, Melitza, qui apparaît dans l'histoire de Joseph et dans un certain rapport avec l'interprétation des rêves. Je me tourne encore une fois, nous avons préparé cette séance, vers Léon Askenazi, qui m'indiquait que du point de vue de la Gematria, il y avait un rapport entre, d'une part, le mot Targum et de l'autre Tardema, assoupissement je pense. Assoupissement, rêve et traduction, à moins d'évoquer tout de suite la pensée freudienne, la pensée analytique, où effectivement, n'est-ce pas, le rêve est conçu comme une langue étrangère à traduire dans l'univers de l'assoupissement et dans l'univers du rêve, c'est une possibilité quasi immédiate de s'y retrouver. Pour le reste, cela appelle réflexion, n'est-ce pas, et le rapport n'est pas évident. Donc, en hébreu même, pas de traduction possible. D'où le paradoxe, le livre et la langue à traduire, et le livre et la langue qui, ne serait-ce que pour ces humbles raisons, n'est-ce pas, ne peuvent pas être traduits. Est-ce que l'antinomie est absolue à partir de là, et le paradoxe, n'est-ce pas, insurmontable ? Pas tout à fait, je ne fais qu'esquisser ici, ne fais que suggérer quelques idées que nous aurons à reprendre et à vérifier. Par exemple, dans le rituel hébraïque, dans la prière, un passage de l'hébreu à l'araméen, donc première langue du Targum, est non seulement possible, mais recommandé, et pour des raisons que nous aurons à spécifier. Est-ce l'amorce ici d'une réflexion sur le passage de l'hébreu à une autre langue virtuelle qui s'esquisse ? Ceci pour la tradition, si vous voulez. Du point de vue linguistique, sémiotique, là encore, il est difficile d'envisager une équivalence absolue entre deux langues, entre l'hébreu et une autre langue. Ce fut le cas seulement des philologues du XIXe siècle. Une sorte de mythe qui s'est perpétué jusque-là, une tradition, un mythe plus précisément, au sens péjoratif du terme, puisqu'il était faux scientifiquement, selon lesquels toutes les langues de l'univers auraient procédé de l'hébreu, langue des origines. Et à ce point de ce qui était l'esquisse d'une réflexion, je me tourne vers Franklin Roski, et je vais d'ailleurs non seulement me tourner vers lui, mais lui passer la parole pour lui demander de nous faire son exposé.
Merci. L'objectif de l'intervention que je vais faire maintenant est assez limité. Il s'agit au fond de rien d'autre que de poser une interrogation qui, me semble-t-il, n'a pas trouvé de réponse jusqu'à présent dans la pensée contemporaine. J'espère que ce soir, Léon Ashkenazi pourra nous donner son opinion et une première réponse à cette question qui me semble fondamentale du point de vue de la pensée traditionnelle et moderne à la fois. Le problème que je veux poser est celui que j'appelle l'exil de l'hébreu. L'exil de l'hébreu comme langue universelle et son constant retour. Et pour expliquer cette interrogation, il faudrait d'abord faire appel à une notion qui me semble intéressante, celle des blessures narcissiques, qui est une idée ébauchée par Freud, en parlant du fait que certaines théories, certaines doctrines ou certaines découvertes, certaines inventions parfois, ont un impact décisif dans la pensée humaine, mais laissent des traces, des blessures dans l'amour propre, dans l'orgueil de l'humanité, dans la vanité des hommes, et parce que ces découvertes, ces nouvelles idées détruisent des illusions qui sont profondément ancrées, profondément enracinées dans la nature humaine. Et Freud signale trois qui, me semble-t-il, sont de moments fondamentaux dans l'histoire de la pensée qui auraient, selon lui, provoqué une réaction négative de la société tout entière, y compris des milieux cultivés, parce que ces découvertes semblaient mettre en question l'image que l'homme s'est fait de lui-même et donc ont été reçues comme des véritables blessures, comme des véritables injures au rôle dominant de l'homme dans l'univers. Et Freud signale comme première grande blessure narcissique dans l'histoire de l'humanité, la théorie de Copernic, c'est-à-dire cette idée selon laquelle la Terre n'est pas le centre de l'univers, la Terre est une planète, rien d'autre qu'une planète parmi d'autres, la Terre donc tourne autour du Soleil, qui serait donc le centre de l'univers, et il est intéressant de signaler qu'à partir de là, l'homme est exilé de sa position dominante dans l'univers. Il n'est plus au centre de l'univers. Edgar Morin utilisait cette expression très intéressante. Après avoir séjourné dans la métropole, l'homme se trouve maintenant exilé dans la banlieue de l'univers, c'est-à-dire sort du centre physique de l'univers. Et André Néer, le regretté professeur Néer, signalait qu'il y avait aussi une autre conclusion à tirer de cette blessure narcissique, c'est-à-dire que la Terre n'est plus immobile. La Terre est maintenant une planète qui tourne et en conséquence, l'homme sort de la situation de stabilité, d'ordre, pour entrer dans un système où l'imprévisible fonctionne. Et Freud signalait que la réaction a été donc violente, n'est-ce pas? Les écrits de Copernic ont été brûlés, et les théories de Copernic ont été condamnées par les différentes églises, encore que, faut-il le signaler, le judaïsme n'a pas pris part à cette condamnation de Copernic, bien au contraire. Toujours est-il que dans le monde catholique et protestant de l'époque, les ouvrages de Copernic ont été sévèrement condamnés parce qu'on mettait en question la place de la Terre en tant que résidence centrale de l'humanité, et donc centre de l'univers tout entier. Et Freud signale qu'il y a une deuxième grande blessure dans l'histoire de l'humanité. La deuxième blessure narcissique serait la découverte, donc la théorie de l'évolution de Darwin, parce que avec cette idée selon laquelle l'homme serait issu d'une branche des primates qui s'est hominisé progressivement, et cela voudrait dire qu'il n'y a pas une création spéciale, différente, spécifique de l'humanité qui serait différente depuis toujours du règne animal. Et l'homme, maintenant, réintègre purement et simplement le règne de la zoologie, alors qu'il s'est croyait un règne différent. Dans les conceptions traditionnelles de la nature, il y avait autrefois un règne humain qui était différent du règne animal. Or, dit Freud, cela va également choquer profondément l'humanité et cela explique les réactions violentes de l'opinion publique, y compris de l'opinion savante, contre cette théorie. Et la troisième grande blessure narcissique serait celle de, dit-il, de la théorie de l'inconscient, parce qu'elle vient donc expulser l'homme de la rationalité, de l'intelligence pure, et faire de l'homme donc un être à la fois rationnel et irrationnel, intelligent et passionnel, un être qui a des pulsions, des instincts, et qui ne vit pas simplement gouverné par la raison. Ce n'est plus l'homo sapiens, il est maintenant donc un être pulsionnel. Et, dit-il, donc cela explique la blessure narcissique que l'humanité reçoit à chaque fois parce que sa conception d'elle-même, la vision que l'homme a de lui-même, est donc détruite par des découvertes qui ne sont pas neutres du point de vue du regard de l'homme. C'est en utilisant cette notion de blessure narcissique que j'essayais de voir si dans l'histoire du peuple juif, nous ne trouvons pas un certain nombre de moments spécifiques dans l'histoire des idées qui ont pu jouer le même rôle, mais par rapport au peuple juif en particulier, par rapport à la civilisation d'Israël en particulier. Et je trouve qu'il y a tout au moins 3 ou 4 découvertes ou théories scientifiques qui ont pu jouer le rôle des blessures narcissiques. Nous verrons par la suite que la réponse juive n'a pas été une réponse de réaction violente, mais de modification de son propre schéma intellectuel, qui ont donc pu jouer un rôle de blessure narcissique par rapport à l'image que le peuple juif pouvait se forger de lui-même. Et la première blessure narcissique, me semble-t-il, concerne la géographie. Les anciens représentaient le monde essentiellement comme composé des 3 continents, l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Et ces trois continents étaient reliés par la Terre Sainte, qui représentait les centres de l'univers. Ce qu'on appelle en hébreu le Tabour Haaretz, le nombril du monde, n'est-ce pas? Et notre ami, le professeur Mélèze, pourrait faire une comparaison probablement avec l'omphalos des Grecs. Et en ce qui concerne cette idée-là, il est évident que la Terre Sainte, qui se trouve au milieu de l'univers physique, apparaît donc comme les lieux de naissance de l'humanité. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'à Jérusalem même se trouve encore une pierre qui est considérée dans les traditions juives, chrétiennes et musulmanes comme la pierre fondatrice de l'univers, Ebn Hashtia, qui se trouve donc dans la mosquée de l'Aqsa. Et il est intéressant de voir que tout au long du Moyen-Âge, les 3 grandes civilisations monothéistes considéraient qu'effectivement c'est à partir de ces points centraux que l'univers tout entier a été créé. Et cette position se reflète dans les cartes géographiques de l'époque, car tous les géographes présentent Jérusalem comme étant au centre du monde. Et après, par la suite, vers la fin du Moyen-Âge, avec les découvertes de nouvelles terres, d'abord l'exploration de l'Afrique et par la suite la découverte de l'Amérique, les géographes ne représentent plus Jérusalem comme le centre du monde. La Terre Sainte, la Ville Sainte et l'omphalos, c'est-à-dire le Tabour Haaretz, le nombril du monde et au milieu de Armoria de la montagne du Temple, sont maintenant expulsés d'une certaine façon, sont exilés, et ne sont plus au centre de l'univers, mais sont tout simplement, n'est-ce pas, un point particulier dans la géographie de la Méditerranée et rien de plus. Il est intéressant de signaler que les géographes juifs suivent le mouvement général. Et quand nous étudions, par exemple, l'histoire de la géographie hébraïque, c'est-à-dire les cartes qui sont donc confectionnées par des géographes, par des cartographes juifs, ils suivent le mouvement général, eux aussi déplacent Jérusalem du centre du monde, et cela ne semble pas être vécu par le peuple juif de l'époque comme un déplacement, comme un exil fondamental, et pourtant, cette position centrale jouait évidemment un très grand rôle, et pour une raison qui semble encore incompréhensible, le monde juif ne réagit pas négativement à ce déplacement, pourtant fondamental. La deuxième blessure narcissique concerne aussi une idée qui était très importante tout au long du Moyen-Âge et de la Renaissance, à savoir que la langue hébraïque est la langue universelle, est la première langue parlée par les hommes. Cette idée n'est pas simplement celle des commentateurs juifs, celle qui se trouve par exemple aussi dans les commentaires d'Ibn Ezra, mais c'est aussi une opinion dominante dans le monde chrétien. L'idée selon laquelle toutes les langues dérivent de l'hébreu, que l'hébreu était la langue parlée et par le premier homme, par Adam et Ève, et par la suite, par toutes les générations d'hommes jusqu'au déluge. Et cette idée-là était dominante, elle est même les sages de la Renaissance, comme le père Kircher dans son livre sur la tour de Babel, signale que les autres langues sont dérivées de l'hébreu dans un mouvement de confusion générale qui a suivi la catastrophe du déluge. Donc la multiplicité des langues serait issue d'une confusion, mais le modèle, l'archétype, la langue primordiale reste l'hébreu. Bien entendu, ce n'est pas l'hébreu rabbinique, l'hébreu de la Mishnah, mais c'est évidemment l'hébreu biblique auquel le père Kircher fait allusion. Eh bien, avec le XVIIIe siècle, nous assistons à une remise en question de cette centralité de l'hébreu. Tout d'abord, avec l'influence d'un courant égyptianiste qui considère l'Égypte comme le berceau de l'humanité, et aussi avec l'existence d'un courant qui, de plus en plus, considère que ce sont les hindous, peut-être les ancêtres de la première langue parlée par l'humanité. Et ces courants orientalistes, de plus en plus, expulsent l'hébreu de cette position dominante qu'il avait dans la pensée traditionnelle, dans la pensée de la Renaissance jusqu'au XVIIIe siècle. Le professeur Poliakov signalait aussi l'effet intéressant que cette expulsion de l'hébreu, cette fascination pour l'Égypte, pour la civilisation hindoue et pour les civilisations orientales, c'est aussi lié au développement d'une sorte de tendance raciste nouvelle qui se développe surtout en Allemagne avec les frères Schlegel, et dont l'objectif, c'est aussi considérer que la civilisation biblique n'est pas le berceau de l'humanité tout entière, mais une des formes de civilisation parmi d'autres, et qu'il faut trouver le modèle ailleurs que dans l'hébreu biblique. Toujours est-il qu'à partir du XVIIIe siècle, de moins en moins de linguistes parlent de l'hébreu comme la langue universelle. Cette conception de l'hébreu comme langue universelle continue à exister relativement, encore que très relativement, dans les écrits rabbiniques, et pourtant, de moins en moins, dans le monde scientifique, cette idée est acceptée. Donc, d'une part, c'est d'abord la recherche d'une autre langue universelle, de ce qui pourrait être à la place de l'hébreu, et c'est aussi, avec la pensée raciste, l'idée, la pensée polygéniste selon laquelle nous serons issus des différentes branches humaines, l'idée selon laquelle, finalement, il n'y a pas de langue universelle, mais que les hommes ont toujours parlé différentes langues parce qu'ils ont des origines différentes, parce qu'ils n'ont pas d'ancêtres communs. Et comment le peuple juif réagit finalement à cette déchéance de l'hébreu, à cette déchéance scientifique, à cet exil de la langue hébraïque? Apparemment, si nous voyons dans l'histoire des idées, si nous consultons les sources, nous voyons que la blessure narcissique n'a pas eu lieu, apparemment. À savoir que ce fait est plus ou moins accepté, relativement accepté dans le monde juif, sans qu'il y ait, d'une certaine façon, ni opposition systématique, ni refus de reconnaître ces données scientifiques nouvelles, et, ni d'autre part, une dramatisation des conséquences de cela. Tout se passe comme si cette nouvelle donnée scientifique n'affectait en rien les rapports du peuple juif avec sa langue maternelle. Un troisième exemple qu'on peut concerner l'alphabet. Et les hommes du Moyen-Âge, et surtout ceux de la Renaissance, juifs mais aussi chrétiens, considéraient que l'alphabet hébraïque est fondé sur la nature. Et ça ne serait pas un alphabet issu d'un développement culturel, mais que ça ne serait rien d'autre que des signes qu'on retrouve ça et là dans la nature, dans les arbres et dans les pierres, etc. Un certain nombre d'explorateurs ont décrit dans leurs mémoires, dans leurs journaux par exemple, comment ils ont trouvé dans des coquillages ou dans des pierres les formes des lettres hébraïques et comment les lettres hébraïques ne font que reproduire les signes fondamentaux de la nature de l'univers. Et cette idée-là, selon laquelle l'alphabet hébraïque serait essentiellement différent de tous les autres alphabets du monde, et cette idée-là finalement disparaît lentement et à fur et à mesure que des études archéologiques apparaissent et montrent d'une certaine façon la parenté très étroite de l'hébreu avec de l'alphabet hébraïque avec les autres alphabets sémitiques. Pourtant, cet abandon de cette idée romantique de l'alphabet hébraïque comme alphabet de la nature, comme un alphabet inscrit dans la création du monde, ne semble avoir pas donc d'effet de blessure non plus dans le monde juif. Et de là, donc, d'une certaine façon, l'interrogation que je me pose. Pourquoi ces déplacements successifs, ces exils successifs, ces expulsions de l'hébreu en tant que fondement central de la culture et de l'esprit n'ont pas eu d'impact, n'ont pas eu d'effet dans le monde juif? Pourquoi il n'y a pas eu une réaction négative pourquoi il n'y a pas eu d'opposition violente à ce type de théorie scientifique ou autre. Bon, une des raisons, ça me semble peut-être celle que Hegel avait proposée et en ce qui concerne la théorie de Copernic. Et Hegel disait effectivement la Terre, avec Copernic, a cessé d'être le centre du monde physique, mais continue à être le centre du monde métaphysique, c'est-à-dire le centre de la préoccupation philosophique de l'être humain. Et je crois que peut-être la raison pour laquelle le peuple juif, et les penseurs juifs, la pensée juive dans son ensemble, n'a pas prêté attention à ces découvertes, on n'a pas trouvé dans ces découvertes des révolutions coperniciennes, mais tout simplement des découvertes scientifiques qui ne vont pas au fond de l'affaire, c'est que peut-être pour le monde juif, aussi l'hébreu était essentiellement au centre du monde métaphysique juif. C'est-à-dire que ce qui était essentiel dans la perspective juive n'était pas tellement une antériorité chronologique de l'hébreu, mais essentiellement le fait que l'hébreu, c'est la langue de la révélation, c'est la langue du monothéisme, c'est une langue que du point de vue de la conception du monde, de la vision de l'homme, est radicalement différente des autres. Et c'est peut-être pour cette raison-là, l'emphase dans cette vision des choses, que le monde juif a réagi, d'une part en acceptant ces théories, en évitant la contestation et en axant de plus en plus l'intérêt sur la langue hébraïque comme langue primordiale, dans le sens d'une langue primordiale de la révélation. Et il suffit de voir, par exemple, dans les écrits des philosophes juifs contemporains, que l'hébreu est essentiellement maintenant présenté de ces points de vue, comme la langue d'un dialogue nouveau et différent de l'homme, et sur les questions métaphysiques. Et de ce point de vue, il me semble-t-il peut-être qu'il n'y a pas eu de blessure du tout, et que la notion de blessure narcissique n'a pas cours ici, peut-être parce que le monde juif a réagi à ces découvertes en essayant de recentrer les débats sur ces dimensions essentielles. Pourtant, il y a une interrogation qui subsiste. Depuis le XVIIIe siècle, la langue hébraïque est naturalisée dans la science moderne. Pour la première fois, elle a perdu son statut métaphysique spécifique, essentiel, privilégié, celui d'autrefois. Celui qu'il avait, d'une part, dans le monde rabbinique traditionnel, d'autre part, dans le monde ecclésiastique, dans le monde chrétien en général, toutes religions confondues. La langue hébraïque naturalisée, réduite à être une langue parmi d'autres, et pourtant, ça et là, on voit que cette définition de l'hébreu comme une langue parmi d'autres, comme une langue sémitique, comme une langue asiatique, comme une langue parmi d'autres langues, n'ayant qu'une spécificité culturelle, sont toutes très réduites, et ne semble pas répondre aux interrogations. Et on voit que ça et là apparaissent aujourd'hui aussi des mouvements qui essayent de montrer que quelque part, cette réduction, cette naturalisation de l'hébreu, cette limitation de l'hébreu à être une langue parmi d'autres langues ne peut pas répondre à toutes nos interrogations. Est-ce qu'il y avait un mystère particulier de l'hébreu? Est-ce que l'hébreu nous donnait la clé des réponses à de très nombreuses questions métaphysiques? Et on voit apparaître dans la pensée moderne, juive et chrétienne, ou même dans la pensée romantique ou dans la pensée métaphysique contemporaine, une nouvelle interrogation sur l'hébreu, où certains auteurs s'interrogent et se disent peut-être que cette réduction, cet exil de l'hébreu, cette expulsion de l'hébreu de sa centralité métaphysique ne doit pas avoir lieu et qu'il convient de s'interroger une nouvelle fois, ce qui pourrait être d'ailleurs le thème d'un prochain colloque.
Merci. Avant de vous donner la parole, et j'espère que nous aurons suffisamment de temps pour un débat avec vous, enfin, débat, je ne sais pas si c'est le mot exact, ça doit être un mot traduit, c'est, disons, un échange. Je vous signale que nous sommes obligés d'arrêter la séance à 9h15 au plus tard, parce que nous avons la commémoration de Yom Yerushalayim qui commence à 9h. Mais jusqu'à 9h15, tout le monde est détendu et on revient au sujet. Je veux d'abord remercier tant notre ami David Mendelssohn que nos amis, que mon cher Oski, de ces introductions, et dire à mon tour à quel point nous regrettons vraiment la non-disponibilité médicale du professeur Mechonik. Nous attendions beaucoup de lui pour cette récapitulation de ce séminaire qui, à mon sens, a été vraiment très riche. Et ce qui nous mène à vraiment projeter un nouveau colloque sur le sujet qui sera à la fois une suite et un élargissement et une reprise de ces problèmes. Je voudrais raconter un souvenir quant à l'histoire de ce problème dans le génèse français immédiatement après la dernière guerre mondiale et donc ce temps de tardéma dans lequel nous étions pendant tout le temps du nazisme. Je retraduirai le mot. C'est que, à mon sens, il me semble qu'une des premières revues de diffusion en français des contenus traditionnels du judaïsme a été la revue Targum, dont je vais vous dire quelques mots. Elle a ensuite eu beaucoup d'émules, et Targum a été fondée par les premières promotions des anciens élèves de l'école d'Orsay, dont certains encore se souviennent de ce temps-là. Et d'ailleurs, je dirais que, au fond, nous n'avions pas choisi ce terme de Targum vraiment lucidement, intentionnellement. Nous étions en tardéma, peut-être. Mais il nous est venu spontanément à l'esprit lorsqu'on s'est demandé comment intituler une revue qui dirait en français des contenus traditionnels retrouvés, reformulés, renouvelés. Et c'est le mot de Targum qui est apparu. Et d'ailleurs, je dois dire, en même temps que je souhaite la bienvenue au grand rabbin Sirat, qui va d'ailleurs se rappeler de ses souvenirs, je sais plus comment on dit en français, mais on a mis un vers de Jocelyne, qui est ici présente, en exergue, et je pense que ce vers, de façon peut-être un peu prophétique d'ailleurs, éclaire ce que renforce ce que David Mendelssohn a dit tout à l'heure. C'était le vers suivant. Et si la voix s'est tue, l'écho n'est point tari. C'était bien ça, Ken. Et il semble que peut-être la traduction est un écho de la voix. Ce qui rendrait compte de cette première remarque, de l'analogie de Gamatria. Gamatria, c'est, vous savez, la valeur numérique des mots en hébreu. Entre le terme de Targum et celui de Tardema, la valeur numérique est la même. C'est 649, si vous voulez faire le calcul. Et que, finalement, c'est important parce que c'est le terme que le récit de la Bible emploie pour nous dire l'état de assoupissement. Tardema, c'est endormissement aussi. Mais je vous citerai tout à l'heure la traduction de Fabre d'Olivet que j'ai sous les yeux, qui me semble beaucoup plus proche de la signification. Il traduit « somnambulise ». Okay. C'est une, au fond, l'état du golem. Okay. C'est-à-dire, c'est le fonctionnement de l'identité naturelle de l'homme non éclairée par l'âme. La différence entre un homme et un golem, c'est que la neshama, l'âme, n'est plus là. Il y a le fonctionnement de la pensée y compris, et donc aussi du langage, mais il n'y a pas cette présence de la conscience à elle-même que dans les catégories théologiques bibliques nous appelons l'âme, et qui implique le projet de sainteté donné à l'homme en différenciation des autres êtres vivants naturels. Lorsque un homme doué d'âme consent, condescend, acquiesce à redevenir un être de nature, il continue à être homme, mais un homme être de nature, c'est un golem en hébreu. Alors c'est ça, cet état de tardéma. Alors c'est important de voir que lorsque les sources auxquelles on a fait allusion pour dire qu'on a pu considérer l'hébreu comme la langue originelle emploient comme argument le fait qu'en hébreu, ish et isha, pour dire homme et femme, c'est une racine, c'est la même racine au masculin et au féminin, et que c'est un cas exceptionnel. Je vous avoue n'avoir pas vérifié dans toutes les langues du monde, mais c'est une tradition très connue. C'est l'argument du Midrash qui dit que le premier homme parlait hébreu, puisque homme et femme se dit en hébreu ish et isha. Ish, homme, le masculin, et isha, femme, c'est la même racine au féminin. Par exemple, puisque nous parlons français, homme et femme, c'est deux racines radicalement différentes. Radicalement, j'ai pas fait exprès. Okay. Deux radicaux racinement différents. Okay. Et comme si il y avait derrière ces règles de grammaire des règles de pensée. On pourrait aller beaucoup plus loin que le terme de pensée, des règles de vérité. Et que c'est peut-être cela qu'on voulait désigner en parlant de l'excellence ou du cas particulier de l'hébreu comme langue. Il ne véhicule pas seulement des procédés de communication de conscience, des consciences Et par conséquent, des procédés grammaticaux, et la grammaire est une science très, très philosophique. En tant que science grammaticale, c'est plus que de la logique, c'est de la logique qui déjà est de la pensée. C'est plus de la logique formelle, je veux dire. J'ai fait quelques études de grammaire, j'en ai le souvenir d'une expérience passionnante. Mais c'est plus que cela, ça dépasse cela. C'est la grammaire de la vérité que rendraient compte les règles de la grammaire hébraïque. Et je vais donc en donner quelques exemples pour commencer sur cette première remarque, et d'abord en reprenant Ish et Isha. C'est pas simplement une anecdote grammaticale. Regardez comme l'hébreu est beau, on dit homme et femme avec la même racine. En français, il y a un féminin de homme, mais c'est homesse. Une homesse, c'est pas une femme. Okay? Et puis il y a probablement un masculin de femme, femmelette, omelette, peut-être, je sais pas, mais enfin, quelque chose de cet ordre. Il y a là un message de vérité qui dépasse encore une fois le simple niveau de l'enquête, de la quête purement linguistique. Et quelle est la langue de l'homme? De l'homme avec un grand H, je veux dire de l'homme authentique, de l'homme différent des êtres de nature, les êtres de nature étant définis comme créatures du même créateur, mais un autre niveau, l'homme pouvant être lui aussi être de nature. Lorsqu'il, encore une fois, renonce au courage du niveau d'être Adam et condescend à être au niveau. Être de nature, peut-être il aurait une lecture du serpent de la Genèse comme homme qui ne serait qu'un être de nature. Lorsque nos sources parlent de ce serpent, il nous mène à nous étonner. D'abord, on ne comprend pas du tout ce qui se passe dans cette scène du jardin, sinon que dans tous les jardins, il y a un serpent. C'est une leçon à retenir. Qu'est-ce que c'est qu'un serpent qui parle? Qu'est-ce que c'est qu'un serpent qui est prophète, puisque Dieu lui parle? Donc, c'est très mystérieux. Okay. Mais admettons en tout cas que il y a deux manières d'être, le vivant parlant, l'homme ou le serpent. Et puis, à partir de ces racines, de ces commencements de lignes de discours, ça se développe dans tout le discours biblique. Quoi qu'il en soit, c'est le fait qu'il nous est indiqué ici qu'on sort du niveau auquel vous avez fait allusion, d'ailleurs de différentes manières tous les deux, l'animalité. Je cherche un terme qui ne serait pas péjoratif, où finalement la différence dont il sera parlé entre l'homme et la femme, la différence est au niveau sexuel. Zahar, Nekeva, mâle, femelle. Et on aborde un niveau d'identité où la dignité dépasse le niveau sexuel. C'est vraiment l'altérité de deux manières d'être l'homme, l'une dans le visage masculin et l'autre dans le visage féminin. Et l'homme dépasse le masculin ou le féminin, c'est l'unité de dépassement des deux, et c'est la même racine qui dira l'être à l'indice masculin ish, l'être à l'indice féminin isha. Il y a donc d'emblée, sans nous n'aurons jamais le temps d'approfondir autant qu'il faudrait tous ces sujets ainsi posés, mais il y a d'emblée dans ces indications apparemment grammaticales et linguistiques des rabbins parlant de ce que du surgissement de l'hébreu au niveau du langage. Une vision du monde, comme il a été dit, un discours de vérité qui dépasse infiniment ce à quoi on pourrait penser lorsqu'on se pose la question de la langue originelle. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont assisté à l'étude hier soir, en compagnie du père Dupuis, et je vous dis tout de suite que nous allons nous recoder à l'analyse hier soir, avec le grec et l'hébreu, eh bien qu'il y a trois expressions dans la littérature rabbinique pour faire allusion à ce que nous appelons l'hébreu. Et je le répète très brièvement en traduisant très littéralement. Il y a d'abord la shon ichudo shel olam, la langue de l'unique du monde. Un peu ce que, il me semble, je n'ai pas encore suffisamment réfléchi, ce que les psychologues, les psychiatres qui ont parlé de cela voulaient dire, je suppose, en parlant de la langue originelle, en parlant de la langue originelle autre que la langue maternelle, la langue symbolique, disons. La langue de l'unique du monde. Il y a ensuite l'expression Lashon HaKodesh, la langue dont l'objet du discours est la sainteté, la langue à travers laquelle la sainteté s'exprime. Petite parenthèse, d'ailleurs j'ai remarqué, que le père Dupuis, dans une toute petite incidente de son discours, avait indiqué qu'on ne peut pas dire la langue sainte, comme on dit en milieu chrétien, mais la langue de la sainteté. La langue sainte, je dirais, la chône à Kedosha. Et troisième, il faut quand même recoder les deux premières lectures, les deux premières expressions. La sainteté apparaît quand il y a unité absolue des valeurs. La langue de l'unique du monde est langue de sainteté, parce que la sainteté, c'est l'unité de toutes les valeurs. Cette analyse, nous l'avons eue dans une autre étude. Et puis troisièmement, l'hébreu. Alors il y aurait là trois niveaux d'allusion à la même réalité d'un langage qui serait censé exprimer l'identité humaine. Je cherche un mot qui serait plus fort qu'anthropologique fondamental. L'anthropos, pour le dire en grec, ce que l'homme est en tant qu'homme et qu'il est seul à être, et que ce serait le langage de l'homme que l'on veut viser en disant la langue de l'unique du monde, la langue de la sainteté. Et qu'en fin de compte, l'histoire aurait donné comme véhicule à cette visée de langue originelle, l'hébreu au niveau des langages, comme il a été dit. Nous n'avons pas cherché des preuves archéologiques, il y a un témoignage de l'histoire. Parce que là où ce consensus est formulé, et c'est un nombre considérable de consciences et qui dépasse le petit peuple juif, la petite société juive, c'est la langue de la révélation. S'il y a eu révélation, eh bien l'humanité, après 4000 ans de diffusion de la parole biblique, il y a un consensus dans l'humanité que s'il y a eu révélation, elle a eu lieu en hébreu. D'où le problème de la question de la traduction de l'hébreu comme langue de révélation avec son contenu au niveau de l'universel. Parce que s'il y a eu révélation, elle est d'intention universelle parce qu'il s'agit du Dieu unique. Si Dieu se révèle, il se révèle à l'échelle universelle. S'il se révèle en hébreu, il est donc nécessaire, dans le sens philosophique, que les rabbins nous parlent immédiatement de la diffusion universelle de l'hébreu. Mais il n'y a que les hébreux qui sont hébreux. Et par conséquent, il faut une langue de traduction pour s'articuler aux langues des nations. Et là, s'articule, si j'ose dire, un débat-combat entre l'araméen et le grec. C'était un peu le filigrane de notre réflexion commune hier soir avec le père Dupuis, dont je me plais à répéter que je me félicite du niveau et de la qualité que cela a eu. Et avant d'y arriver, je voudrais parler un peu, peut-être sous forme apparemment anecdotique, du Targum. David a dit très exactement qu'on ne peut pas traduire Targum par traduction. Targum, c'est plutôt interprétation. Nous avons trois Targumim officiels. Le Targum de Onkelos, le Targum de Yonatan Ben Uziel et le Targum Yerushalmi. Il y a peut-être d'autres, mais ce sont les trois classiques. Et pour ceux qui ont étudié le Targum, et je ne peux pas ne pas citer ici le nom du Père Jus, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, qui est un père jésuite qui a étudié le Targumim, et dont certainement nous aurons à rappeler son œuvre dans le prochain colloque consacré à ces problèmes. Nous sommes au moins trois ou quatre dans la salle qui ont eu l'honneur d'avoir été les élèves d'une disciple du Père Jus, dont je cite aussi le nom, Mademoiselle Talancier, Elisabeth. Bien, on parlera du Père Jus en son temps. On y parlera d'ailleurs en même temps que d'André Spire, puisqu'André Spire a été un de ses amis très proches. Je reviens au problème des Targumim. Eh bien, il n'y a jamais, ni dans Onkelos, qui est le plus sobre des Targumim, ni dans les autres, il n'y a jamais traduction littérale mot par mot. Il y a toujours, à un certain moment, un mot supplémentaire d'interprétation. Donc, dans Targum, il y a effectivement projet de traduction, mais c'est surtout interprétation. Je raconterai une anecdote rabbinique, enfin de la mémoire rabbinique sur Onkelos. Onkelos était censé être, de son nom Achillaeus, un légat que le pape avait envoyé dans sa province de Judée. J'ai oublié de quel pape il s'agit, mais enfin, c'était le légat du pape. Bon. Non, c'est un oubli. Je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient de quel pape il s'agissait. Adrianus, je crois. Je ne me rappelle plus. L'empereur, Ken. Ah, j'ai dit le pape. Ah, lapsus. Non, c'était un empereur. Tu n'es même pas une soupape. Non, mais excusez-moi, mais je n'ai pas fait exprès. Et oui, le Targum joue des tours. C'est un détour, le Targum. Et les empereurs, en ce temps-là, avaient l'habitude d'envoyer leurs successeurs présomptifs en stage dans les provinces éloignées de l'Empire, et la Judée était une province turbulente, comme vous le savez, et donner à leurs envoyés un conseil politique. Alors, d'après la tradition que je vous cite, ce conseil était « Si tu vois une affaire qui marche bien, t'en occupe pas, parce qu'elle ne peut que décliner. » C'est un peu marxiste comme raisonnement d'ailleurs.